C'est l'heure de Meilleur Espoir. Je reçois un ou une invitée dont je pense qu'elle ou il est une figure montante du cinéma français. Au cours d'un entretien libre, mon meilleur espoir du jour partage avec moi et avec vous tout ce qui permet d'entrouvrir la porte sur sa personnalité et sur ce qui le constitue en tant qu'artiste. Une émission d'Audrey Forestier sur Radio Campus Paris est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées.
Le César de la meilleure espoir féminine.
Le César du meilleur espoir féminin.
Une espoir, c'est pas français, c'est un espoir.
Son César du meilleur espoir féminin.
Du meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir masculin.
Das meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin.
Vous faites le plus beau métier du monde.
Ah bah, j'ai déchiré le papier en deux, ça commence bien.
Comme beaucoup d'enfants de son âge, mon fils de 4 ans est fasciné par les engins de chantier. Et il ne manque jamais de s'arrêter devant le plus fameux d'entre eux, le roi du BTP, le bulldozer. Parfois, on dit de certaines personnes qu'on considère comme fonceuses qu'elles sont des bulldozers. J'ai toujours trouvé ça un peu dépréciatif parce que, dans mon esprit, l'expression sous-entendait tout de même une forme de brutalité. Et j'avais peut-être tort, j'étais sûrement trop injuste avec le bulldozer que je voyais comme une machine brusque et effrayante, sans doute à cause de sa lame frontale profilée portée par deux bras articulés par un mécanisme hydraulique. En tout cas, grâce à mon fils de 4 ans, je réévalue mon jugement et je comprends qu'il est, avant tout, un engin de construction. Et c'est là où je veux en venir. Je peux désormais dire, sans culpabiliser parce que j'ai éliminé toute connotation péjorative de l'image, que mon meilleur espoir est un bulldozer. Elle est à l'origine des carrières, sans jeu de mots. Elle aide à bâtir les projets, elle évalue le terrain, elle démine les situations, elle aplanit les extravagances qui pourraient nuire à l'émergence du talent, ou même des talents, ceux dont elle s'occupe, puisque mon meilleur espoir est agente artistique. Dès lors qu'un film commence à voir le jour, qu'on joue dedans, qu'on l'écrive, qu'on le produise ou qu'on le réalise, elle est celle sur qui on peut, elle est celle sur qui on doit compter. Mon meilleur espoir est Fanny Minviel. Salut Fanny.
Salut Audrey.
Fanny, dans ma présentation, j'ai dit que tu étais agente artistique. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec agente? Est-ce que toi tu dis agente ou est-ce que tu dis agent?
Eh ben, je ne dis pas agente, mais pour autant, je suis d'accord. La première fois que j'ai entendu le mot agente, c'était dans la bouche d'une agente québécoise. Et en fait, au Québec, ils, elles, sont un peu plus en avance, je pense. Et c'était très naturel de dire, voilà, toi et moi, on est agente. Et au début, ça m'a fait un petit truc un peu drôle à l'oreille parce que c'est juste une question d'habitude et que ça fait maintenant 15 ans que j'entends agent. Donc je crois que je dis agent, mais j'aimerais bien dire agent.
Tu pourrais changer?
Ouais, je crois que je pourrais changer.
Après cette émission, peut-être tu vas changer.
Agent, je vais la scéner comme ça.
Comment tu sens la place des femmes et des hommes dans ta profession?
Je crois qu'il y a quand même toujours eu historiquement pas mal de femmes dans ce métier. Peut-être parce que notre métier, s'il fallait faire un petit raccourci, c'est en fait de s'occuper des autres, et que traditionnellement, ce sont les femmes qui s'occupent des autres. En tout cas, à la maison, dans le foyer, c'est ce qu'on a toujours dit et pensé. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'hommes. Ils sont pas si nombreux, mais il y a des agents, par exemple, aujourd'hui, très important, très reconnu, très très bon, très compétent, qui sont des hommes. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes, mais qu'il y a de plus en plus d'hommes, et que c'est pas si mal.
T'as jamais senti que ça te portait préjudice d'être une femme dans cette profession? Que t'avais moins de crédit qu'un homme, ou quelque chose comme ça?
Non, pas d'être une femme, mais d'être une jeune femme.
Ah!
Ouais. Parce que moi, je suis entrée comme assistante d'agent artistique à chez Art Média à l'époque, j'avais 21 ans, et je pense pouvoir dire modestement que j'en faisais 15, enfin j'exagère, mais je faisais très très jeune, je pense, à l'époque, et ça allait parce que quelque part c'était plutôt mignon, charmant, tu vois, j'étais assistante. À partir du moment où je suis devenue agent, j'ai commencé vraiment comme agent, moi comme une grande, à 28 ans. Et là, j'ai senti que, j'ai senti par moments que le fait d'être jeune, d'avoir moins de 30 ans, j'étais pas maman à l'époque, j'étais pas en relation avec quelqu'un et en tout cas, je dirais que les gens du métier ne me connaissaient pas de relation, avec quelqu'un sérieuse, établie, etc. Donc, j'ai senti qu'il fallait que je vieillisse, en fait. un truc tout bête, mais mes premières années, mes premières éditions au Festival de Cannes, en tant que jeune agent, je mettais plus de robe. Je m'habillais que en costume, tu vois. Comme s'il fallait que je mette un costume, quoi. Enfin, en sens propre. Le costume de fonction, quelque chose qui soit neutre, qui soit, potentiellement qui n'attire pas trop les regards, qui soit pas, qui me donne une sorte d'autorité, de prestance, et qui efface toute forme de, en tout cas, qui est pas de dimension, elle est féminine et et elle peut être sexy. Ça, je me le suis interdit longtemps. Pour être prise au sérieux, en fait. Pour pas qu'on me regarde comme une femme, mais qu'on me regarde comme un agent, en fait.
Ouais. Finalement, être agente, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais concrètement?
Mais c'est une bonne question.
Une journée de Fanny Marvial, c'est quoi? J'imagine qu'elles sont toutes différentes.
Ouais, et c'est ça qui est bien. Alors, il y a des récurrences, il y a des choses communes à toutes les journées. Par exemple, répondre au téléphone et regarder ses mails, ça, j'ai envie de dire, c'est tous les jours. Enfin, moi, ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est qu'au fond, on saute du coq à l'âne, en fait, en permanence. Parce que c'est un métier où t'es beaucoup en réaction et où t'es sollicité. Enfin, c'est un métier de service d'une certaine manière. S'il fallait, tu vas le mettre dans une grande catégorie. Moi, je me mets au service des personnes que je représente, au service des projets, que donc on me sollicite et moi je dois être en capacité.
Mais par exemple, on te sollicite, on te dit quoi? Je dis n'importe quoi, hein, parce que vraiment je sais pas. Un producteur t'appelle et te dit oui, je vais produire tel film, parce que c'est pas du casting que tu fais, donc on va te demander par exemple ton avis sur qui tu pourrais proposer comme talent interprète, ouais. Par exemple.
Oui, alors je pense qu'en plus le métier d'agent, il s'exerce différemment selon les personnes que tu représentes. Un agent m'a dit un jour cette chose très juste qui est au fond on n'existe qu'à travers les personnes qu'on représente, et je trouve que c'est vrai. Donc déjà, si tu es agent d'artiste interprète ou si tu es agent d'auteur, auteur au sens auteur scénariste et auteur réalisateur, c'est pas tout à fait le même travail. L'esprit reste le même, c'est-à-dire tu défends les intérêts professionnels de la personne qui te mandate pour voilà. Donc, moi je trouve que c'est une vraie responsabilité, tu à travers tes mots, à travers ton discours, à travers tes propos, tu vas parler de quelqu'un qui te confie, qui te délègue le soin de défendre ses intérêts. Mais donc un producteur peut me solliciter parce que il est à la recherche d'un scénariste sur un projet, parce qu'il a une idée derrière la tête et qu'il a envie de rencontrer tel réalisateur avec qui tu travailles, ou parce qu'il a envie de faire lire à telle comédienne le scénario, voilà. Donc, il y a toute cette part-là, si tu veux, qui est vraiment un travail de prospection, de développement et d'artistique. Qui rencontre qui, et qu'est-ce que cette rencontre va amener, quoi. Est-ce que ça va donner lieu à un projet, une collaboration, voilà. Et toi, en tant qu'agent, t'es l'un des maillons de cette... Et moi, de plus en plus aussi, j'essaie de faire en sorte de créer comme ça des synergies. Quand tu t'avances dans ton métier, tu connais de mieux en mieux les personnes qui t'accompagnent, mais pas seulement. Enfin, tu connais aussi de mieux en mieux plein d'acteurs au sens large de la profession, et c'est comment tu peux, parce que tu connais.
Ah oui, un tel, ça matchera bien. Exactement. Avec un tel, ils vont savoir bien travailler ensemble.
Un auteur qui te dit tiens, j'ai une idée, j'ai envie d'écrire là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? T'es généralement l'un des premiers lecteurs. Lis, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça peut intéressé, est-ce que ça peut donner lieu à quelque chose, et dans ce cas, toi, de réfléchir à qui tu envoies ce projet, entre les mains de qui tu places ce projet. Et il y a une partie plus de conseil, c'est-à-dire par moment, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'accepte de faire ce rôle, est-ce que je le, si je dis oui, qu'est-ce que ça raconte de moi, qu'est-ce que ça raconte de mes choix, d'essayer d'amener en fait les artistes à, enfin c'est un peu psychanalytique, en tout cas moi c'est comme ça que je le pense, c'est-à-dire que moi j'essaie au maximum de ne pas asséner de vérité, de pas dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Parce qu'au fond, le décisionnaire à l'arrivée, c'est quand même l'artiste, enfin le talent. Mais plutôt de l'aider à accoucher de la réponse. En donnant mon avis, évidemment, j'ai un avis presque sur tout. Mais de faire en sorte que ce soit pas, que mon avis, disons, ne soit pas, écrasant et, tu vois, qui permette au contraire à l'artiste, au talent, à l'auteur de lui prendre sa décision, et celle qu'il jugera être la meilleure. C'est pas une science exacte, quoi. On peut se tromper, on peut décider de faire un film et en fait, bah, peut-être qu'on n'aurait pas dû, ou au contraire refuser un rôle et, bah, peut-être qu'on n'aurait pas dû. Dans ce métier-là, parce qu'il est très incertain, parce qu'il est très précaire, parce qu'il est très mystérieux, les artistes, les talents ont besoin d'un interlocuteur privilégié avec qui ils peuvent très librement, sans jugement, échanger sur leurs envies, sur leurs doutes, sur leurs frustrations, sur.
Donc c'est le groupe de talents qui disent l'agent que tu es. Mmh. Mais du coup, toi, comment tu choisis les talents? Est-ce que c'est eux qui te contactent ou tu repères quelqu'un? Et tu vas à lui. Comment ça se passe? Comment tu constitues ton, je sais pas comment on dit.
Oh, il existe plein de mots, mais jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé celui qui me plaisait le plus. Il y en a qui disent un portefeuille au client. Ouais. Et alors là, vraiment,
Au revoir l'humain.
Au revoir l'humain. Ouais, d'accord. Qui disent une écurie. Mais
bizarre.
Non, l'écurie talent, ce ne sont pas des chevaux, en fait. Une équipe, une liste. Alors, une liste, pareil, une liste de talents. Bon, une liste, ça fait un peu, tu vois, une liste de course, quoi.
Une équipe, ouais, c'est pas mal.
Une équipe, c'est bien. Ouais. Une équipe. Moi, je pense que c'est le mot qui me plaît le plus. Bah, tout est possible. Enfin, je dirais que au début, quand j'ai démarré comme agent, j'ai beaucoup moins fait la démarche d'aller vers essentiellement des personnes qui n'étaient pas encore représentées. Parce que là, je disais, ben voilà, moi, t'as pas d'agent, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec un agent? Voilà ce qu'on peut faire ensemble, voilà ce que je propose, voilà pourquoi moi j'ai envie de travailler avec toi, et puis on essaie, puis on verra bien. Et puis au fur et à mesure, c'est un peu comme tout, je pense que un artiste avec lequel tu travailles, qui est content, parle de toi à son ami, qui va peut-être te contacter, et puis en fait, il y a vraiment un côté comme ça, un peu bouche-oreille, et aussi, ce qui est intéressant, c'est dans ce cas-là, tu crées une espèce de communauté d'âme, tu vois, les gens se connaissent, s'estiment, travaillent ensemble, et donc, il y a une forme de logique et de cohérence à faire grandir comme ça une équipe. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai été de plus en plus sollicitée, mais ça m'empêche pas moi encore de faire la démarche. Après voilà, quelqu'un qui a déjà un agent, c'est vrai que moi je suis pas trop du genre à aller dire salut, t'as déjà un agent.
Ça si tu venais,
Y en a qui le font bien sûr. Et puis j'ai envie de dire, ça fait presque partie du métier d'une certaine manière. Après, il y a des façons de faire. Je pense que faire savoir à quelqu'un que tu aimes son travail, que t'es interpellé, ému par le travail de quelqu'un, ça mange pas de pain de le faire. Après, ça veut pas pour autant dire quitte tout et viens bosser avec moi, tu verras, ça sera vachement mieux que là où t'es. C'est pas, tu vois, je suis pas trop à l'aise avec ça. Parce que je pars du principe qu'en fait, quand les choses, elles doivent se faire, elles se font.
Thank you.
Meilleur Espoir, un vendredi sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris.
Et du coup, est-ce qu'un talent t'a déjà quitté?
Oui, bah oui.
Et alors, est-ce que c'est comme une rupture?
Bah, encore une fois, ça dépend. Bah, ça, c'est... Enfin, je pense qu'il n'y a pas un agent qui peut... Enfin, on a tous été quittés, ça fait partie du jeu, quoi. Il y a des ruptures qui sont... Des séparations, disons, qui sont plus douloureuses que d'autres. Soit parce que parfois tu peux trouver ça injuste, ça a pu m'arriver de me dire bah là je trouve ça pas juste parce que moi j'ai l'impression de donner beaucoup, de croire en toi, de travailler pour toi et tu pars. Et puis par moment c'est aussi que bah on est arrivé au terme de quelque chose. Je peux aussi comprendre qu'à, enfin moi je comprends.
C'est arrivé d'être d'accord
avec
cette démarche là.
Oui, bien sûr. Ouais. Et même de dire, je pense qu'au fond, ça m'est même déjà arrivé de dire à quelqu'un, je pense que je suis plus l'agent qu'il te faut, parce que justement, j'ai du respect profond pour la personne, parce qu'en fait, on évolue quoi, tous à nos endroits, et qu'à un moment, on a besoin d'un autre regard, parce que dans la vie de tous les artistes, je dirais peut-être plus en particulier des artistes interprètes, il y a vraiment des étapes, des caps, des quand tu grandis, quand tu prends de l'âge, bah tu changes de catégorie de rôle et c'est aussi des moments dans la vie où on a parfois besoin pas de faire table rase du passé mais d'avoir autre chose. Donc en soi moi je m'étais toujours dit tiens la première fois que tu seras quitté par un talent comment tu vas réagir, est-ce que ça va aller? Et en fait oui, j'ai survécu. mais parce que aussi je suis très sensible à la manière avec laquelle ça se fait. C'est comme tout, quoi. Je veux dire, dans la vie, tu peux avoir vécu une très belle histoire d'amour, t'as pas très envie d'être largué par texto, tu vois. Et qu'en fait, quand un artiste et un agent prennent le temps de se voir, de s'expliquer, de se dire les choses avec respect, tendresse. Donc,
quitter bien son agent.
Bien quitter son agent, ouais, c'est important.
Ouais, c'est donc
mais
se
de
voir.
La même manière, c'est se voir, mais c'est plutôt se voir, oui. Et puis je crois que c'est de savoir dire les choses, quoi. Ne pas être que dans le reproche et dans l'amertume et dans tu n'as pas été ceci ou tu n'as pas fait. C'est de se dire qu'il y a eu des belles choses parce qu'a priori, si à un moment on a fait le choix de bosser ensemble, c'est qu'il y avait...
Est-ce que parfois tu sens que des talents font trop reposer sur toi l'échec ou les réussites de leur carrière? Est-ce que parfois on te donne trop de responsabilités?
Non, je crois pas. Moi, j'ai quand même plutôt la chance de travailler avec des personnes qui ne m'accusent pas ou qui ne m'accablent pas. Mais on est co-responsable, disons. Et en même temps, on est aussi, encore une fois, comme on est cette écoute et cette oreille attentive et bienveillante, de fait, la colère, la frustration, c'est nous qui la recevons. Mais moi, je la prends pas personnellement. Ça a pu m'arriver d'avoir des discussions houleuses, c'est pas le mot, mais en tout cas vives, enfin un peu... où je sentais en face de l'incompréhension, de la tristesse, de la colère, de l'aigreur même parfois, et qu'elle s'exprimait avec tout ce que ça peut, tout ce qu'on peut imaginer, mais je me dis pas que c'est adressé à moi directement. Voilà.
Quand je t'ai contactée, Fanny,
tu
m'as dit oui, mais moi je sais pas trop si j'ai ma place dans cette émission, je suis pas artiste, et je t'ai dit oui, mais ton univers, ta sensibilité peut expliquer aussi pourquoi tu fais ce métier et les talents avec lesquels tu travailles. Et du coup, je vais te laisser présenter ta playlist qui ouvre la porte sur ton univers, en tout cas ton univers musical.
Ok, très compliqué de faire une playlist.
Ouais, mais alors je trouve, alors tu vois, moi je trouve que ça en dit long sur toi.
Ah ouais?
Parce que je trouve que la personne qui fait cette playlist a un goût très sûr.
Ah ben je te remercie, écoute. Donc premier morceau. J'ai choisi un morceau qui s'appelle Willy de Cat Power. Parce que j'ai beaucoup écouté Cat Power. Et Cat Power, c'est vraiment, des heures toute seule, chez moi, à lire, à réfléchir.
Ça correspond à quelle période de ta vie, ça?
après le bac, donc les études, quoi, et puis la vie de, puis la jeune adulte, jusqu'à, je dirais de 18 à 30 ans, quoi.
Est-ce qu'il y a un morceau dans la liste qui correspond à ton adolescence?
Ouais. X-Factor, Lauryn Hill.
Ok, c'était l'époque où tu prenais des distributeurs de paille dans des fast-food.
Mon Dieu, comment tu sais ça? Mais comment
j'ai tu
sais ça?
J'ai tellement attendu pour la placer.
Mais comment t'as pu avoir... Attends, mais t'as vraiment des sources incroyables. Ouais, j'aimais bien déconner quand même au lycée. Je dois reconnaître que j'ai toujours trouvé ça très 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 relou d'être extrêmement extrêmement dans les clous, en fait.
Ok.
Donc oui, ça m'est arrivé de faire ce genre de trucs qui n'ont aucun sens, vraiment. Je encore aujourd'hui, je ne saurais pas l'expliquer.
En même temps, c'est des trucs qui sont vraiment très anodins. Enfin, oui. T'es pas non plus rebelle à finir
pas
poste,
du tout.
Quoi.
Pas du tout. Non. J'avais juste. Mais aussi parce que je trouvais ça. C'était quand même un drôle d'objet, ce distributeur de paille en plastique. Enfin, tu vois, on est quand même à une époque où tu dis, il y a des distributeurs de paille en plastique. Enfin, ça me paraît impossible aujourd'hui. Je veux dire, la paille, c'est vraiment plus possible et encore moins en plastique. Donc je j'avais vraiment trouvé ce truc débile, en fait, cette espèce d'objet, et je me suis dit, bah, qui ça gêne si je l'embarque, quoi, en fait, au fond, personne. Ouais, Lauryn Hill, ça correspond à ça, ça correspond à, en fait, quand, je crois que le premier album, le premier CD que j'ai acheté avec mes petits sous à moi, c'était The Score des Fugees. Grosse découverte, quoi, grosse tarte dans ma tronche. Et donc, de fait, Lauryn Hill, elle incarnait tout, quoi. Je trouvais que c'était une femme au milieu d'un groupe très masculin. Elle était forte, à la fois elle rappait et en même temps elle était pas du tout vulgaire. Elle une voix incroyable, une beauté incroyable. Enfin, moi c'était voilà. Et donc c'était normal de mettre Lauryn Hill. Et ce morceau-là aussi parce que il a un côté un tout petit peu kitsch. Il y a un moment où t'as un espèce de solo de Carlos Santana à la guitare qui fait vraiment genre... Et je me disais, waouh, c'est génial d'être... de faire... Pour moi, c'est un tube, quoi. Un morceau d'anthologie qui traverse toutes les époques que j'ai autant de plaisir à écouter maintenant que quand, quand j'avais 15 ans. Et ça, j'aime beaucoup. Le morceau est parfait aussi dans son imperfection, un peu, quoi. Et Cat Power, ouais, mélancolie, quoi, la mélancolie à l'état pur. C'est, je pense, l'une des artistes que j'ai le plus écoutée et que j'ai fini par voir en concert et j'aurais jamais dû parce que il ne faut pas voir Cat Power en concert.
Ah bon?
Ah non, non, faut l'écouter beaucoup.
Mais... Pourquoi? Parce qu'elle est pas généreuse sur scène?
Non, ou... parce qu'elle est, je pense, tellement dépressive et tellement en incapacité d'être en interaction avec un public que voilà qu'elle oublie les paroles, qu'elle est sortie de scène, qu'elle s'écroule, enfin qu'elle perd littéralement tous ses moyens. Et c'est aussi pour ça que je l'ai choisie, parce que c'est comment on peut aimer quelqu'un qui nous transporte, qui nous... Ouais, moi je crois que j'aime beaucoup la mélancolie au fond. J'ai besoin d'y aller par moments, de me plonger là-dedans, mais et elle est douce et elle est pas triste, en fait, c'est une mélancolie très réconfortante, et Cat Power c'est cette mélancolie là. Et ensuite, Le Tigre.
Ah, j'adore.
Bah ouais, parce que ce morceau, je pense qu'il y a un... Enfin, bon, je fais beaucoup moins de soirées qu'avant, mais j'adore danser. Et quand je danse, il y a forcément un moment dans la soirée où je vais m'emparer de la playlist, je vais pousser tout le monde et mettre ce morceau. Et je fais « Allez, on y va !» Et vraiment, là, je deviens une coach de sport, parce que c'est mon moment cardio, tu vois, de la soirée. Et je le trouve incroyable. Et pour finir, Nomalizo de Leta Mbulu. Ça, c'est parce que c'est une de mes récentes découvertes, ce morceau. On est en été, Audrey, et que pour moi, il a vraiment le goût de l'été, ce morceau.
Ok.
T'as envie de marcher plus lentement, d'avoir des vêtements légers, d'avoir un cocktail, de te poser avec des gens chouettes et d'avoir des discussions jusqu'au lever du matin, quoi. Et je trouve que ce morceau, il appelle ça, et ouais, je l'ai découvert avec mon amoureux il y a pas si longtemps, et c'est un peu notre morceau de kiff et de chill qui met du soleil dans ta vie, quoi.
C'est voilà. Une saison que t'aimes bien, l'été?
Pas trop, non. Non, il fait trop chaud. J'aime pas du tout la chaleur.
Mais ça correspond aux vacances et ça... Alors ça, les vacances, par exemple.
Ouais.
Est-ce qu'on a de vraies vacances quand on est à Gente?
Bof. Non, pas trop. La semaine, entre Noël et Jour de l'An, on est hyper tranquille. Sauf catastrophe.
Mais ok. C'est quoi une catastrophe dans ton métier?
Une catastrophe, c'est... Bah, il y en a plein, mais c'est un accident grave sur un tournage, c'est un sinistre, c'est un comportement inadéquat dans un contexte de travail qui donne lieu à voilà, mais c'est des cas de force majeure. Et ensuite, au mois d'août, c'est censé être un peu calme, mais t'es jamais à l'abri d'un coup de fil. Enfin, le truc, c'est que c'est vrai que depuis que je suis agent, je me suis encore jamais dit tiens, je vais partir faire un voyage d'un mois à l'autre bout du monde. Non. Bon, après aussi parce que je me dis est-ce bien raisonnable la planète, tout ça. Enfin, tu vois, la France est très bien. Enfin, mais il y a aussi ce truc. Ouais, moi j'ai tout le temps mon portable en fait. Je regarde mes mails tous les jours. Il y a des moments, j'arrive à sanctuariser, si tu veux, des moments où pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures... Mais le truc de couper complètement, ouais, c'est impossible, je crois. Je pense que beaucoup de gens diront la même... Enfin, beaucoup d'agents diront la même chose.
Ok. C'est quoi? C'est la peur de passer à côté de quelque chose ou au bout d'un moment, l'habitude est tellement ancrée qu'on peut pas faire autrement? C'est quoi, en fait?
Non, moi, c'est pas la peur de passer à côté. Parce que, encore une fois, je me dis, bon, on sauve pas des vies, on n'opère pas des cerveaux. C'est très important ce que... Enfin, j'estime que ce que je fais est très important, sinon je le ferais pas. Moi, je peux pas me dire que parce que je suis en vacances, je vais faire manquer une opportunité de travail à quelqu'un. C'est plutôt là. Donc, ce qui fait que t'as toujours... Puis t'as toujours un truc en tête parce que t'es jamais à jour dans ce métier. T'as toujours un film à regarder, une série à revoir, un scénario à lire, un mail à traiter, quelqu'un à rappeler. Enfin, en vacances, le rythme est plus tranquille, mais c'est aussi du coup des moments où j'en profite pour faire un peu du rattrapage, c'est-à-dire lire des choses que j'ai pas eu le temps de lire. Enfin, donc tu coupes jamais complètement dans ta tête.
veux passer à la phase quart de couleur.
Allez,
je te laisse choisir et je te laisse dire ce que tu tires.
Alors, je tire une carte rouge, évidemment.
Évidemment ?
Ouais, c'est ma couleur préférée. On commence par le rouge. Eh ben voilà, femme, homme, féminisme, hashtag MeToo.
Ah, bon, toi, t'étais quand même aux premières loges.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, vraiment ?
Oui. Oui. En fait, MeToo, c'est quand même... Comment dire ? Une explosion, un séisme qui est parti des États-Unis. Et qui a, et tant mieux, fait... tu vois, il y a eu des ondes de choc qui sont arrivées jusqu'à nous. Et en même temps, on est encore dans une vraie forme d'omerta, tu vois, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent, mais par exemple, ce truc très très fort et très très symbolique de dire « on fait tomber Harvey Weinstein aux États-Unis », c'est-à-dire un porc, évidemment, ça, tout le monde est d'accord pour le dire, mais quelqu'un qui est très très haut placé, qui a un pouvoir hallucinant, qui est extrêmement puissant... Il n'y a pas eu d'équivalent en France. Alors, je ne sais pas s'il y a l'équivalent d'un Harvey Weinstein en France, mais il y a forcément des gens très très haut placés, très très influents, avec beaucoup de pouvoir, qui sont encore quelque part à l'abri. Où tout le monde sait, mais personne ne dit.
Ça t'est arrivé qu'une artiste, interprète, t'appelle et te dise des choses ?
Pas de fait aussi grave et caractérisé que les victimes d'Harvey Weinstein. Je veux pas commencer à rentrer dans le débat de, tu vois, de faire une hiérarchie de la douleur et de la souffrance, mais non, ça m'est jamais arrivé. En revanche, des situations où t'es, et c'est là où en fait en France il y a quelque chose, je trouve, qui change et qui se joue, et c'est bien, c'est sur cette fameuse ligne de crête, quoi. À quel moment tu sens qu'il y ait forcément d'agression sexuelle, par exemple, mais...
Un malaise.
Un gros malaise, ouais. Des propos sexistes, une réflexion, une forme d'intimidation, enfin, tu vois, tout et souvent, d'ailleurs, ça émane d'hommes qui vont te dire qu'ils sont hyper féministes, tu vois, et qu'ils ont deux filles à la maison, et que carrément on y va et point en l'air et en avant le combat. Et c'est là où tu dis, alors attends, il faut vraiment revoir beaucoup de choses, quoi. C'est dans une forme d'éducation, en fait, là, on en est à ce niveau-là.
Mais toi, du coup, quel est ton rôle en tant qu'agent si tu reçois un coup de fil comme ça?
Bah, si je reçois un coup de fil comme ça,
qu'est-ce que tu fais? J'alerte
tout de suite. Il est arrivé, enfin, il y a aujourd'hui, par exemple, un nouveau métier, quand même, sur les plateaux, qui s'appelle le coordinateur ou la coordinatrice d'intimité, et il y a aussi les référents harcèlement. Bon, c'est deux sujets qui mériteraient, dont on pourrait parler pendant très très longtemps, mais,
coordinateur... Est-ce que tu peux expliquer? Ouais, vas-y.
Ouais, bien sûr. Alors, un coordinateur d'intimité, c'est une personne à qui on fait appel pour régler, un peu à la manière d'un cascadeur, hein. Après, peut-être qu'un coordinateur dirait, moi c'est comme ça que je peux le résumer un peu rapidement, des scènes, des séquences d'intimité. Donc ça peut être des scènes d'amour avec une vraie scène avec un caractère sexuel, mais ça peut être aussi une scène plus intime, un baiser, un moment de rapprochement entre des corps. Et donc, l'intimité, c'est pas que la nudité, enfin, ça recouvre beaucoup de choses, mais c'est un moment où il y a quelque chose à jouer qui n'est pas... où il faut qu'on se dise que c'est pas anodin. C'est pas comme ouvrir une porte et dire au revoir à demain, tu vois. Il y a quelque chose qui... Et donc, de plus en plus de productions font appel à des coordinateurs d'intimité. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt des femmes, des coordinatrices d'intimité. Elles sont pas nombreuses encore en France, en fait, hélas. Mais je pense que ça va venir pour discuter préalablement avec les interprètes de comment, et le metteur en scène évidemment, parce que je pense que la coordinatrice d'intimité n'a pas à se substituer non plus au regard du metteur en scène, ça doit se faire de manière concertée et intelligente sur qu'est-ce qu'on filme, comment on le tourne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cadre, est-ce que t'es à l'aise de jouer ça, est-ce que de répéter en fait tout bêtement des gestes parce que bah parce qu'en fait c'est pas enfin, tu peux être comédien et avoir 30 années d'expérience derrière toi, c'est pas pas forcément simple de se retrouver avec un partenaire dans un lit et de devoir jouer une scène d'amour. Donc ça se répète, quel geste, comment, de définir ben voilà qui est présent sur le plateau. Peut-être que là le chef de file et le quatrième stagiaire régie, il a pas nécessairement besoin d'être là à ce moment-là. Enfin, donc voilà, ça sert à régler un peu tout ça. Et aussi, de plus en plus, en tout cas moi ça m'est arrivé là pour une comédienne sur un projet, de réfléchir avec les agents à la manière avec laquelle tu rédiges les clauses contractuelles sur... Et ça c'est assez intéressant de le faire en lien avec le coordinateur d'intimité aussi. Après il peut y avoir des juristes, etc. Mais qu'est-ce que tu... Comment tu contractualises réellement voilà, la manière avec laquelle certaines scènes vont être tournées.
Et par exemple, la question de la nudité? Non, mais ça, c'était déjà avant, j'imagine.
Ça l'était, mais là, ça l'est autrement. Sur ce projet-là, la coordinatrice d'intimité a fait une proposition de clause qui était extrêmement pensée, réfléchie, concertée avec la réalisatrice, en l'occurrence, sur, voilà, comment les choses, quelles séquences, comment elles vont être tournées. T'avais même presque un découpage, en fait, qui était annexé au contrat. Alors, je sais pas s'il faut toujours aller jusque-là, ça dépend, mais en tout cas, historiquement, classiquement, les clauses de nudité, c'était un peu... vous ferez appel à une doublure et on n'a pas le droit de filmer ses fesses.
Bon, okay.
Là, ça va plus loin. C'est-à-dire, question de doublure ou pas doublure, c'est aussi, c'est évidemment qu'est-ce qu'on filme et comment on le cadre, mais aussi comment on l'aborde dans le travail. Et après, bon, bah, référent harcèlement, ça c'est encore autre chose sur un plateau. Ça a soulevé pas mal de questions ces derniers temps avec le dernier festival de Cannes. C'est-à-dire que là, c'est une personne, un membre de l'équipe qui est nommé, en plus de son poste, de sa mission traditionnelle, pour être la personne à qui on pourra s'adresser, un membre de, enfin, vers qui n'importe quelle personne de l'équipe technique et artistique pourra se tourner s'il y a à un moment quelque chose qui est vécu et qui n'est pas bien vécu et qui relève du harcèlement. Sauf que, enfin, après, bon, là, je me mouille un peu personnellement. Moi, je pense que les référents harcèlement doivent faire l'objet d'une vraie formation, que c'est pas juste tiens, au fait, tes scripts, et puis, si ça te dit, tu vas être aussi référent harcèlement. Se pose vraiment la question de savoir si ça doit être un membre de l'équipe ou si ça doit être quelqu'un de neutre, d'extérieur, enfin... Voilà, et je pense que tout ça, c'est des questions... Oui, ça, l'après-MeToo, en tant qu'agent, je le vois, j'y assiste, et tant mieux. L'après-MeToo, c'est aussi l'apparition des quotas. C'est pas le MeToo en tant que tel, c'est plutôt la femme et le féminisme.
Oui.
Enfin, en tout cas, la représentation des femmes dans la profession. Et c'est la charte France Télévisions qui impose que désormais... à la télévision, il y ait autant d'œuvres audiovisuelles réalisées par des hommes que par des femmes. Très bien. Et là, on pose des choses, et puis derrière, on fait le constat que, mais en fait, il n'y en a pas des femmes réalisatrices à la télévision. Enfin, elles sont très très peu nombreuses. Donc, on commence à prendre conscience de tous ces manques. Alors, après, se pose la question de savoir si c'est bien que... On te dit, tiens, je te sollicite pour te proposer du travail parce que t'es une femme.
Mmh.
Voilà. Là, pour moi, l'étape d'après, ça va être de se dire que c'est pas soit lui parce qu'il est super, c'est un super réalisateur, ou elle juste parce que c'est une femme.
Oui,
le jour où on arrivera à se dire que, sans se poser la question du genre, de l'identité, on pourra proposer un travail à un homme ou à une femme de la même manière, Donc il y a encore du boulot.
Ouais. C'était hyper intéressant. Merci.
Cool. Bah, je t'en prie. He took the bomb.
I'm not afraid to die.
Meilleur Espoir, un vendredi sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris.
Autre carte. Ouais. Célébrité.
Est-ce que toi, t'en as déjà rêvé à titre personnel de la célébrité?
Moi?
Oui.
Ah non.
Pas du tout.
Pas du tout, du
tout. Ça ne te fait pas envie, ça ne te fait pas rêver.
Ah, du tout, du tout.
Mais est-ce que l'univers qui englobe, qui habille la célébrité te plaît? Je te donne des exemples. Des cérémonies, par exemple.
Pas du tout.
Les Césars, Cannes.
Non.
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 C'est pas ça qui te plaît dans ton métier.
Non, pas du tout.
C'est, tu considères c'est même, pas ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est même, tu considères pas que c'est la chantilly de que tu mets sur tous les efforts que tu fais toute l'année. Non.
Pas du tout.
Ok.
Non, non, moi c'est un peu. C'est, parfois c'est un peu la tanasse d'aller au César quand même. Enfin, en vrai. Non, si je dois le dire, je suis très heureuse que des talents soient nommés. Je suis hyper heureuse, tu vois. Mais le principe d'être non non je
moi j'adorerais aller au César.
Eh ben je
oui, mais parce que tu l'as fait plein de fois toi.
C'est pas que ça, ça m... en fait vraiment je crois que ça
c'est pas tu t'ennuies.
Je t'es pas à l'aise. Je suis pas complètement, ouais, je me sens pas à ma
tu
place.
Tu te sens pas à ta place.
Je crois que les mondanités en vrai kikinent un peu. Et plus le temps passe, plus c'est le cas. Enfin, j'aime un certain type de mondanité. Par exemple, je trouve que c'est super certaines fêtes, certaines soirées, parce que t'as des temps d'échange qui sont privilégiés. J'adore les festivals, par exemple. Mais parce que les festivals, tu vois des films et tu te rencontres. Mais
c'est quel ton préféré?
Mais pas Cannes, voilà.
Je trouve pas que, Cannes. Bah, okay. Non,
je trouve que Cannes, c'est encore autre chose. C'est lequel? J'aime bien. J'ai adoré. J'y suis allée pendant des années. J'y ai travaillé. Le festival Premier Plan d'Angers. J'ai vachement aimé le Festival des Arcs, j'ai trouvé ça super, tu vois, j'y suis allée cette année pour la première fois, j'aime beaucoup le Festival de Locarno, Angoulême, je trouve ça super, parce que fin de l'été, tu te retrouves, tu vois plein de films, et tu peux parler de cinéma, quoi, et pas avoir que des discussions méta-cinéma, tu vois, où t'es dans du small talk, du name-dropping, et ça, je trouve ça super. Mais moi, ouais, l'idée de devoir me fringuer, machin, tout ouais. Ça me... Pff,
bon. On a bien compris que du coup, t'as pas choisi ce métier pour les paillettes.
Non.
Clairement. Ok.
Autre carte.
Allez.
Jaune. Jaune soleil. Amitié.
Alors, quel ami tu es? Est-ce qu'on se fait des amitiés dans le cinéma?
Oui, bien sûr qu'on se fait des amitiés dans le cinéma, heureusement.
Est-ce que t'es plutôt une amie fidèle ou est-ce que t'es du genre à perdre de vue les gens ou enfin, je sais pas, est-ce que genre t'es du genre ou alors t'es la fille qui dit oh, alors ça c'est mon amie depuis la crèche et je suis toujours admirative, genre, mais comment tu fais pour avoir gardé des amis depuis la crèche enfin,
oui.
Ça... mais ça existe,
ça existe. Ah, ben, je sais, mon conjoint a un ami depuis la crèche. Oui. Ben moi j'ai des non, je pense être assez fidèle, assez loyale en amitié. C'est vrai que enfin mes amis proches et forts sont des personnes que j'ai dans ma vie depuis très longtemps quand même. Je dirais depuis le début du lycée quoi. Après mes amis, en tout cas ceux qui ne font pas partie du métier du cinéma et j'en ai et je trouve important de continuer d'en avoir. C'est vrai qu'ils ont aussi fini par comprendre que j'allais pas être cette amie qu'on allait pouvoir voir toutes les semaines. Non. Et je suis pas du tout cette amie qui appelle pour prendre des nouvelles. Parce que clairement, le téléphone pour moi c'est devenu un objet de travail en fait. Donc je me dis pas le soir. Chouette, il est 21h, j'ai fini. Si j'appelais ma pote pour passer 1h30 au téléphone avec elle à raconter.
Ouais, non.
Non. Donc moi c'est plutôt salut, on se voit. Ouais. Et parfois ça va être que 3 fois par an, mais ça sera quand même super.
Encore?
Ouais. Orange. Tadam. Hollywood. J'y suis allée une fois, ouais.
Ok.
Ouais, j'ai eu la chance. Là, je dirais la chance parce que j'étais entièrement invitée. C'était dans des conditions, hollywoodiennes, quoi.
Mais pourquoi? C'était dans quelles circonstances?
Je représente une comédienne qui a tourné dans un film de Sam Mendes. Et la productrice du film de Sam Mendes a invité cette comédienne ainsi que moi même à aller à la première du film aux États-Unis, à faire toute la presse, etc.
Donc, mais tout, enfin, j'étais invitée, invitée quoi. Donc, le billet d'avion en business, le super hôtel sur Sunset Boulevard, le chauffeur, les soirées, voilà.
Tu l'as vu ce que c'était en vrai.
J'ai vu, voilà. ouais. Bah, j'ai même rencontré et j'ai même hugué, si j'ose dire, enfin, où j'ai été hugué par Steven Spielberg. Et là, mais je me suis dit, bon, ok, c'est quand même cool, ouais. Ma vie est faite, je peux rentrer. ça vaut tout l'or du monde.
Ah, classe.
Ouais.
Ah,
donc ouais, j'ai vu et je suis allée, donc j'en ai profité pour faire aller, évidemment, consciencieuse comme je suis, quelques rendez-vous, et notamment d'aller chez CAA, qui est donc la plus grosse agence artistique aux États-Unis. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est un building. T'as la batterie dans le hall quand tu rentres, t'as l'une des vraies batteries des Beatles. Enfin, c'est okay. Tu vois.
T'es super à l'aise en anglais?
Non. Enfin, je suis
mais
à l'aise.
Ça allait,
oui. Enfin, ouais. Je suis pas bilingue, mais je parle et je me fais comprendre et je comprends.
Tu pourrais exercer professionnellement là-bas si on te disait bon, écoutez, Fanny Minvielle,
pas du tout.
On a besoin de vous dans nos bureaux.
Non, et puis je suis pas sûre d'en avoir envie non plus. Okay. Les agents, enfin le métier d'agent aux États-Unis est très très différent du nôtre. Hein. Parce que aux États-Unis, t'as un agent, t'as un manager, t'as un lawyer, t'as un avocat, t'as une team qui est assez énorme. T'as pas un agent, t'as une équipe d'agents. Ils fonctionnent par équipe. Et moi, le métier d'agent tel qu'il s'exerce aux États-Unis, il me fait pas. Non, okay. J'aime bien le côté artisanal, franchouillard. Une autre carte.
Une petite dernière.
Allez. Une sorte de doré, hein.
Ah oui, c'est doré.
C'est doré, c'est ça.
Ah ouais.
Parole blessante. Ah, ouais. C'est une vraie question que j'ai souvent, c'est de me dire protéger un artiste. Est-ce que c'est du coup lui cacher certaines choses que tu peux entendre à son sujet, des choses un peu alarmantes parfois dans le comportement, pas graves et condamnables, mais qui pourraient porter préjudice à cette personne. On est dans une époque, dans un monde, dans une société et dans ce petit écosystème du cinéma où une réputation est vite faite, où t'as vite fait de dire ah bah oui mais il paraît que et, ah ouais bah, machin est comme ça, et qu'il faudrait que les artistes soient parfaits, extrêmement talentueux, extrêmement sympathiques, extrêmement humbles, extrêmement travailleurs, extrêmement toujours à l'heure, toujours contents. On t'a dit non 10 fois mais c'est pas grave, t'es quand même content. Enfin. Et en fait, non, c'est des êtres humains très sensibles, fatalement. Donc, il peut y avoir des paroles assassines qui peuvent faire des dommages, je pense, vraiment profonds, des
cicatrices. Mais qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce que tu peux entendre et que t'hésites à rapporter?
Aujourd'hui, il faut plus, tu vois, il faudrait que tu sois tout le temps parfait. Enfin, moi, c'est un peu comme ça. J'ai l'impression qu'on en demande encore plus aux artistes. Et donc, oui, quand t'entends des petites choses, parce qu'on te dit... Qu'est-ce que tu fais de ces paroles-là? Qu'est-ce que toi t'en penses? Comment tu filtres? Comment t'édulcores? Est-ce que tu décides de... Voilà, moi, il y a des artistes qui me disent, mais moi, Fanny, je veux, si t'as des retours, je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Et en effet, je pense que je suis personne pour dire, ben non, ça, je te coupe d'une forme de vérité, parce qu'au fond, c'est ta vérité, enfin, c'est ton histoire, c'est toi et ça t'appartient. Mais c'est comment aussi tu transmets quelque chose pour aider l'autre dans une démarche que tu espères constructive et aidante, sans que parfois les mots soient trop blessants. Et ça a pu m'arriver notamment une fois avec une comédienne que j'aime beaucoup d'être maladroite, de pas bien choisir le moment, de pas bien choisir mes mots et je m'en suis voulu, voilà. Mais on a pu en parler.
On n'est pas obligé de finir sur parole.
Je veux bien que tu choisisses toi la dernière.
Moi je choisis.
Ouais, ok. C'est toi qui choisis.
Alors je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans les cartes. Enfin, ouais, je me souviens.
Il y en a plein, donc j'espère. Voilà, sinon, c'est que t'as vraiment une mémoire.
Il y en a qu'on tire jamais, tu vois. Genre celle-là, elle n'attire jamais personne, ça me fait trop de peine.
Ah bah alors vas-y.
Tu vois les crèmes là.
Elles sont pas mal les crèmes. Voilà,
choisis une crème.
Hop, celle-ci. Injustice.
Oh.
Ouais. Hein.
Oh, c'est chiant.
On la remet, hein. Tu vois, la crème, bah non, quoi. Je t'ai regardé, je me suis dit...
Oh,
ok, hein, je veux bien essayer, mais... on va prendre le gris, parce que le gris, je pensais pareil, allez. Ça n'attire pas. Ah non, c'est un gris métallisé. Un
ouais,
peu...
si, ouais, l'argentique.
Mensonge. Parole blessante, mensonge.
Ouais, on n'a pas envie, ouais. Là, ouais, on n'est pas
un
dans
truc un peu... Il faut finir
ouais,
sur une note
ouais,
un peu...
Un peu plus gay, je sais pas.
Attends, vas-y, je prends un autre crayon. Vas-y.
Ah, ça, c'est rigolo. Personne ne l'a jamais présent.
Dieu, religion. Ah ouais.
Je sais pas, tu crois en Dieu?
Ah ouais. Pas vraiment. Enfin, non. Enfin, je, non. Je suis pas...
T'as pas été éduquée dans une certaine religion?
Non. Non, non. Je suis pas baptisée.
On peut dire que t'es athée?
Non. En revanche, je suis pas athée. C'est pour ça que je dis pas vraiment. Parce que... Je pense que j'ai, il y a eu des moments, j'ai eu des vrais moments de spiritualité dans ma vie, en revanche. Donc je peux pas dire que la spiritualité n'est pas, est loin de moi, quoi. Ouais. Et puis je partage ma vie avec quelqu'un qui est assez spirituel, au fond, qui n'est pas croyant au sens monothéiste du terme, mais qui est assez spirituel, et ça, je crois quand même, je crois. À quoi je sais pas. C'est pas un truc de la vie après la mort, de ça, mais il y a des signes, il y a des choses, il y a des rencontres. Enfin, je crois quand même à, je pense que j'ai une bonne étoile. Je pense que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance dans sa vie, vraiment. Je le dis, et je, d'ailleurs, parfois, ça me fait peur. Pourvu que ça s'arrête pas.
Ah oui.
Tu vois, ce truc, genre, waouh, mais j'ai quand même vachement de chance. Ouais. Puis le fait de devenir parent fait que t'as besoin de croire aussi, parce que sinon tu fais pas d'enfant aujourd'hui, enfin je veux dire la planète elle va pas bien du tout, donc il y a une envie de croire à un autre monde, à un autre modèle, à d'autres, tu vois,
c'est bien de finir là-dessus.
Ouais, je pense aussi.
On n'a pas tout à fait fini, Fanny.
Ok.
Parce que c'est le moment où tu dois me dire qui tu penses que je devrais inviter dans cette émission.
Je pense que tu devrais inviter une jeune femme qui s'appelle Marlène Serrour, qui est directrice de casting. Bah déjà, c'est une très belle personne et elle est super dans son métier. En tant qu'agent, on est très en contact avec les directeurs de casting et il y a un peu ce truc parfois de te dire j'envoie entre guillemets un artiste à l'abattoir, quoi, tu vois, j'y suis pas, je sais pas ce qui peut se passer. Et Marlène, en plus d'être extrêmement bienveillante et puis elle a du goût, puis elle fait partie d'une nouvelle génération, puis elle révèle des gens. Elle a travaillé notamment sur le casting d'un film dont je représente la réalisatrice, et j'aime particulièrement ce film. Il s'appelle Les Pires, de Lisa Coca et Romane Guéret. Puis je trouve que c'est intéressant de donner la parole aux directrices de casting.
Très intéressant.
Voilà.
Je te remercie.
Bah, je t'en prie.
À bientôt, Fanny.
Merci à vous, Audrey.
But you'd rather make it hard.